Imaginons un instant une situation presque absurde, mais pourtant bien réelle au quotidien.
Ah, je t'écoute.
Ben, on commence sa journée en angoissant sur le prix faramineux d'un billet d'avion ou sur le coût du plein d'essence, et on la termine en jetant à la poubelle un reste de repas qui a nécessité, tu sais, plus de 1000 litres d'eau pour être produit.
C'est clair, c'est le grand écart.
Exactement. Il y a une fracture fondamentale. D'un côté, une société mondiale qui s'emballe, qui accélère frénétiquement, et de l'autre, une biologie humaine et un écosystème qui hurlent silencieusement au besoin de ralentir.
C'est un décalage vertigineux en fait. On fonctionne un peu comme un moteur qu'on maintient constamment dans le rouge. L'accélération, ce n'est plus un outil pour gagner du temps, c'est devenu l'état par défaut de la condition humaine contemporaine.
Et c'est précisément cette tension fascinante que nous allons décortiquer dans notre exploration du jour. On se plonge aujourd'hui dans l'édition de mars 2026, le numéro 53 du magazine web marocain L'Objet Image. C'est une vraie radiographie de notre époque.
Absolument, c'est une source d'une richesse incroyable.
L'objectif de cette plongée au cœur de ces articles, c'est de comprendre les rouages de ce grand écart. On va aller des bouleversements géopolitiques mondiaux jusqu'au lit de rivières asséchées sur Mars, en passant par le mécanisme caché de notre flore intestinale. La vraie question au fond, c'est comment survivre à notre propre modernité.
C'est tout le défi. Et pour saisir ce besoin viscéral de freiner qui s'incarne par le grand dossier du magazine sur la slow life, il faut d'abord analyser la pression qui s'exerce sur nous. Et cette pression, elle commence très loin d'ici, sur les océans.
Ouais, la carte du commerce maritime mondial.
Voilà, elle est en train d'être brutalement redessinée. Le magazine s'ouvre sur un monde en ébullition. On y lit que le détroit d'Ormuz est fermé suite aux tensions et aux tirs de missiles au Moyen-Orient. Bien sûr, on rapporte cela avec une stricte neutralité factuelle, c'est ce que disent les sources.
Qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'un détroit bloqué à l'autre bout du monde change vraiment la donne économique pour tout le monde?
Totalement. Le commerce mondial, c'est comme un système sanguin. Si on bloque une artère majeure, le flux doit trouver un autre chemin. Face à l'impossibilité de traverser cette zone, les géants du transport contournent massivement l'Afrique par le Cap de Bonne-Espérance.
Ce qui doit rallonger les trajets de façon monumentale.
De plusieurs semaines, la conséquence directe, c'est que le complexe portuaire de Tangemed se retrouve en première ligne. Il se prépare à absorber une hausse historique des escales.
Ah, ce qui explique l'accélération d'autres projets d'infrastructure. Les sources mentionnent le port Nador Westmed, dont l'achèvement est prévu pour cette année, en 2026. Ce n'est plus juste un atout, c'est devenu, je cite, « une urgence absolue » selon les directives royales du 8 janvier.
Exactement. Et le prix à payer pour ce détournement global, il est énergétique. Faire le tour de l'Afrique, ça brûle des quantités astronomiques de carburant en plus, sur un marché qui est déjà sous haute tension.
C'est là qu'on arrive aux chiffres qui font peur.
Ouais. Les projections internes de compagnies aériennes majeures comme United Airlines se préparent au pire. Ils envisagent un scénario où le baril de pétrole flamberait à 175 $ et resterait au-dessus des 100 $ jusqu'à fin 2027. Juste pour eux, c'est 11 milliards de dollars de surcoût.
Attends, 175 $ le baril. Mais si on suit cette logique, c'est tout le modèle des vols low cost qui s'effondre. Le tourisme de masse prend un coup fatal. C'est l'effet papillon par excellence. Un missile tiré au loin menace les vacances de la classe moyenne ici. D'ailleurs, le Conseil de la concurrence au Maroc est passé d'une surveillance trimestrielle à mensuelle sur les prix à la pompe.
C'est ce que le magazine appelle la Coupe du monde du pétrole. Face à cette fragilité absolue, la seule issue rationnelle pour un pays, c'est la quête d'indépendance. Se détacher de cette dépendance aux grutes.
Et ça explique ce grand retour en grâce du nucléaire. On lit qu'il y a une relance très sérieuse des études pour intégrer l'énergie nucléaire civile. On a longtemps misé sur les renouvelables, avec des succès énormes, comme la construction du méga-projet solaire Nour Atlas, lancé par Massen. Mais le nucléaire revient pour compenser.
C'est ça. Il faut une énergie de base stable, qui ne dépend ni de la météo, ni des hydrocarbures. Et cette stratégie de durabilité, on la voit aussi dans le bâtiment. La tour Mohamed VI, livrée à Rabat, en est le parfait symbole. Un vrai laboratoire d'efficacité énergétique.
Mais là où cette volonté de durabilité percute violemment la réalité, c'est dans l'agriculture. J'ai été scotché par les chiffres. Les exportations d'avocats s'effondrent.
Oui, l'avocat, c'est un gouffre à eau.
Un gouffre, hein. Dans un contexte de stress hydrique, continuer ça, c'est une aberration. Et pourtant, en parallèle, les prévisions économiques attendent une relance spectaculaire de 15% de la valeur ajoutée agricole pour 2026.
Grâce aux excellentes pluies automnales, heureusement.
Mais c'est fou, non? On célèbre ces 15%, Mais n'est-ce pas hyper dangereux que toute l'économie retienne son souffle en regardant le ciel en attendant de voir s'il va pleuvoir?
C'est la grande vulnérabilité de ce secteur. D'où l'importance de ce qui va se discuter au SIAM 2026, le salon de l'agriculture à Meknès fin avril avec ses 1500 exposants. Le thème central, c'est la durabilité et la souveraineté alimentaire. L'idée, c'est de s'éloigner des cultures inadaptées pour miser sur la résilience.
Et tu vois, les stratégies d'État, c'est bien, c'est grandiose. Mais au niveau citoyen, le quotidien est bourré de contradictions. Prenons le gaspillage alimentaire. Le CSCS tire la sonnette d'alarme. En 2022, on était à 113 kg de nourriture jetée par personne au Maroc, contre 91 kg l'année d'avant.
C'est une augmentation dramatique. Et le pire, c'est l'eau invisible que ça représente. Ces aliments jetés équivalent à 1,6 milliard de mètres cubes d'eau gaspillés.
C'est ce que j'appellerais un vrai jet lag sociétal. On jette de la nourriture qui coûte des milliards de litres d'eau pendant qu'on tremble pour nos barrages. On est complètement désynchronisé.
Une désynchronisation qu'on essaye de corriger dans d'autres domaines. Par exemple, dans l'éducation, l'ONDH engage près de 16 millions de dirhams pour évaluer rigoureusement près de 5000 établissements pionniers. On cherche l'efficacité.
L'efficacité, c'est aussi le cœur du débat sur notre gestion du temps. La fameuse pétition de plus de 200 000 signatures pour exiger la fin de l'heure d'été, le GMT plus 1. Les gens n'en peuvent plus, ça ruine le sommeil et la santé.
Et cette désynchronisation temporelle, ce jet lag, il a des conséquences biologiques mesurables. Le corps lâche. Prends le télétravail. On observe une explosion des maux de dos et de nuque. Et le problème, ce n'est pas juste la chaise de bureau.
Non.
Non, c'est la posture sédentaire globale. On n'est pas fait pour rester immobile 8 heures par jour. D'ailleurs, le magazine brise un mythe tenace sur le métabolisme.
Ah oui, le fameux métabolisme lent. C'est dans mes gènes, on entend souvent ça.
Exactement. Eh bien, c'est faux. Le métabolisme génétiquement lent ou rapide, c'est marginal. Ce qui prime, c'est l'activité physique et l'alimentation. La machine ralentit parce qu'on ne bouge plus.
Et nos pauvres yeux en paient le prix aussi. Les écrans détruisent la vue. Les sources soulignent l'importance de prévenir la cataracte avec des légumes verts, du zinc, de la lutéine, des oméga-3. Mais le truc qui m'a le plus sidéré dans le volet médical, c'est le microbiote.
Ah, l'axe intestin-cerveau.
Oui, le fait qu'une simple cure d'antibiotiques puisse altérer la flore intestinale pendant 8 ans. 8 ans, et que ça affecte directement le cerveau.
C'est fascinant et effrayant. L'écosystème bactérien est tellement complexe. D'ailleurs, les menaces médicales mutent. Le rapport note que plus de la moitié des cas de tuberculose au Maroc en 2025 sont extra-pulmonaires. La bactérie s'attaque aux os, aux reins, aux ganglions.
C'est dingue. Face à ça, heureusement qu'il y a l'innovation. T'as vu ce passage sur le patch cutané du MIT?
Oui, des micro-aiguilles pour surveiller l'immunité sans prise de sang. C'est brillant.
C'est de la science-fiction. Au niveau local aussi, ça bouge. Le CHU Ibn Sina recrute 30 nouveaux chefs de service pour se moderniser. Et la radiologie marocaine brille à l'international avec le docteur Najat Cherif Idrissi El Ghanouni, honoré à Vienne. Une vraie diplomatie scientifique.
Absolument. La médecine fait des miracles. D'ailleurs, petite parenthèse historique mentionnée dans le mag, le 30 mars 2026 marque les 184 ans de la première anesthésie. Le médecin anesthésiste est décrit à juste titre comme le gardien silencieux de la vie.
C'est poétique. Mais l'ironie de tout ça me frappe. On a bâti un monde moderne qui nous donne mal au dos, qui fatigue nos yeux, qui dérègle notre digestion. Et en réponse, on invente des patchs du MIT et on déploie des millions pour réparer les dégâts de ce mode de vie.
C'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est là que l'édito et le dossier spécial de l'IMAG apportent une réponse radicale. La solution, ce n'est pas forcément une nouvelle technologie médicale. La solution, c'est d'adopter la slow life, ralentir.
La slow life, ça sonne très tendance, mais les racines sont profondes, non?
Oui, ça vient d'Italie dans les années 80. C'était le mouvement slow food, en réaction à l'ouverture d'un fast-food en plein Rome. Aujourd'hui, ça s'est élargi. C'est devenu une réaction de survie face à la surcharge cognitive.
La fatigue du monde rapide, exacerbée par les smartphones qui bipent sans arrêt.
Exactement. Le cerveau disjoncte. La tendance au Maroc, c'est de voir des gens quitter le stress urbain étouffant de Casablanca. Ils partent s'installer dans des villes comme Essaouira ou Tagazout, ce que le télétravail permet désormais.
Pour, au fond, libérer de l'espace mental. Moins d'objets, moins de charge mentale.
C'est une vraie philosophie. Et ça touche le tourisme. HelloSafe classe le Maroc comme le pays le plus sûr d'Afrique en 2026. L'ONMT relance sa campagne Ntlakaof Bladna pour encourager le tourisme interne. Voyager plus près, plus lentement.
Ce qui est crucial de souligner, c'est que ralentir, ce n'est pas un échec.
Ah non, surtout pas.
Ce n'est pas refuser le progrès, c'est reprendre le contrôle. Décider que la réussite, ce n'est pas de passer 2 heures dans les bouchons avec un café à emporter, mais d'avoir le temps de vivre.
Exactement. Prendre son temps, c'est d'ailleurs ce qui permet de créer des œuvres qui durent. À l'opposé de la culture fast-food, l'art exige cette lenteur.
Oh oui, la section culturelle du magazine illustre ça parfaitement. Il y a cet édito très critique, et on le rapporte de manière neutre bien sûr, sur les films de guerre américains. Ils imaginent des titres comme « Forrest Trump à Téhéran » pour symboliser cette culture de la violence rapide et des armes à feu.
Un contraste saisissant avec l'art séculaire du Zellige, par exemple. Le Maroc défend cet art à l'UNESCO contre l'appropriation algérienne en s'appuyant sur son enregistrement à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le Zellige, c'est la définition même de la patience géométrique.
Tout à fait, et les musées suivent le rythme. Le Makaal reçoit le tout premier label Musée du Maroc. La galerie AA emmène l'artiste Yasmine Adni au Grand Palais pour Art Paris 2026. Même le musée Yves Saint-Laurent à Marrakech diffuse un opéra de Wagner. On est dans le temps long.
La jeunesse n'est pas en reste. Le FICAM 2026 à Meknès, le festival de cinéma d'animation, rend un bel hommage au fondateur de Spacetoon.
C'est fou comme tout se connecte. Obtenir une étoile Michelin, comme la chef Nawal Rezaghi de l'Alcove vient de le faire en réinterprétant l'héritage marocain, ça demande des années. Pareil pour la guérison psychologique. Le livre de Meryem El-Jazouli, OSER, enfin être, propose une méthode très lente pour guérir les traumatismes.
Oui, OSER. Observer, se libérer, exprimer, rayonner.
Voilà, OSER. Maîtriser le Zellige, obtenir une étoile ou guérir l'esprit, ça exige exactement ce que le monde moderne nous refuse, de la patience et du temps.
C'est une belle synthèse. Et si on veut vraiment prendre du recul sur cette notion de temps, il faut dire la dernière partie scientifique du magazine, une perspective littéralement cosmique.
Oh, l'eau sur Mars!
Exactement. Le rover Perseverance, grâce à son radar RIMFAX, a scanné jusqu'à 45 mètres sous la surface du cratère G0 et ils ont trouvé des couches sédimentaires de delta.
Des rivières.
Des rivières. La preuve irréfutable que de l'eau liquide coulait là il y a 4 milliards d'années. D'ailleurs, le scientifique marocain Kamal Oudrehri a reçu une médaille de leadership de la NASA pour son travail sur ses missions. C'est une immense fierté.
Quand on lève les yeux vers les étoiles, et vers Mars en l'occurrence, ça remet tellement les choses à leur place. L'histoire d'une planète s'écrit sur des milliards d'années. Ça relativise vachement le stress du dossier en retard ou du bouchon sur l'autoroute, tu ne trouves pas ?
Absolument. Ça dégonfle nos urgences artificielles.
Quel voyage on a fait au fil de ces pages. On est parti des tensions géopolitiques qui bloquent le commerce maritime et font flamber le pétrole. On a vu les maux de dos et les ravages des antibiotiques pour finalement comprendre ce besoin viscéral de la slow life, de la beauté patiente du Zellige et finir face aux rivières asséchées de Mars.
D'ailleurs, cette image martienne, elle soulève une réflexion finale assez troublante.
Dis-moi.
Mars a perdu ses rivières il y a 4 milliards d'années et c'est devenu ce désert hostile qu'on connaît. Et au moment même où on observe ça, ici sur Terre, le Maroc affronte un stress hydrique tel qu'il doit freiner ses cultures d'avocats. On gaspille 1 milliard de mètres cubes d'eau en jetant de la nourriture. Cette découverte sur Mars, elle prend une dimension presque prophétique.
Waouh! C'est glaçant, dit comme ça.
Bah, ça nous montre que le mouvement de la slow life, la quête de durabilité, ce n'est pas juste une mode pour citadins stressés. C'est peut-être la condition absolue pour éviter que notre planète bleue ne connaisse un jour le même destin que la planète rouge. À quelle vitesse voulons-nous vivre? Et surtout, vers quel précipice courons-nous si vite?
C'est la question parfaite pour clôturer notre analyse. Il est temps pour chacun d'entre nous de reconsidérer nos urgences. On espère que cette plongée au cœur de ces sources vous aura, d'une certaine façon, donné envie de lever le pied, de contempler le temps long et de réfléchir à votre propre rythme de vie. Merci de nous avoir accompagnés et à très bientôt pour une nouvelle exploration.